Vous écoutez, on lit pour vous.
L'IA générative, plus créative que nous. Sauf que... Un texte d'Alain McKenna, paru le 21 janvier 2026 dans la presse. L'IA générative est-elle plus créative que les humains? Oui, répondent dans une importante étude publiée ce mercredi des universitaires montréalais, dont le chercheur Yoshua Bengio. Car si certaines IA sont plus créatives que la moyenne de la population, elles le sont moins que les plus créatifs d'entre nous. Depuis 2022, les intelligences artificielles, IA, génératives comme ChatGPT, se sont imposées comme de puissants outils de création. À quel point peuvent-elles remplacer la créativité humaine? Le professeur Karim Djerbi de l'Université de Montréal s'est penché sur la question avec les chercheurs Antoine Bellemare-Pépin et François Lespinasse, ainsi qu'avec Yoshua Bengio et le professeur de l'Université de Toronto, J. A. Olson. Un outil créatif très puissant. À partir de données recueillies auprès de 100 000 personnes, ils ont établi le degré de créativité des grands modèles de langage, LLM, les plus populaires, comme ChatGPT d'OpenAI, Llama de Meta et Claude d'Anthropic. Leur constat, les IA les plus puissantes, comme celle de ChatGPT, sont plus créatives que la moyenne de la population. En revanche, elles n'égalent pas le degré de créativité des humains les plus créatifs. C'est la plus importante recherche en son genre. Elle a été réalisée à partir d'un test d'association divergente créé par Jay Olson, disponible sur l'Internet. Évidemment, peu de gens, avant la publication de cette recherche, mettaient en doute le fait que les IA génératives sont des outils créatifs très puissants. Pour quiconque ne passe pas ses journées à rédiger des textes, utiliser ChatGPT lorsque vient le moment de produire une lettre de motivation ou d'embauche, ça tombe sous le sens. Nos tests démontrent que les IA génératives rivalisent avec la créativité moyenne de la population, explique à la presse Karim Djerbi. J'insiste sur le mot « moyenne », car elles n'ont pas dépassé tous les humains. Si vous faites partie des 10% les plus créatifs, vous gardez un avantage. Ça peut être rassurant de savoir que les plus créatifs d'entre nous sont plus créatifs que l'IA. Pour les gens plus créatifs, des artistes amateurs ou professionnels des industries créatives, l'IA générative n'est pas une menace pour le moment. On a toujours besoin de cette importante étincelle humaine, mais pour combien de temps encore? Un an? 6 mois? S'interroge Karim Djerbi, par ailleurs directeur de l'Union Neurosciences et Intelligence Artificielle Québec, UNIQ, UNIQUE, un centre de recherche qui se situe à la croisée des chemins entre l'IA et les neurosciences. Cette question ne dérange pas le chercheur montréalais. L'IA, pour lui, est un outil, très puissant et très dérangeant, certes, mais dont le contrôle demeure dans les mains de ses utilisateurs. Et dans les mains des humains les plus créatifs, ça devient un des outils les plus performants dans leur coffre à outils, dit-il. À condition de bien savoir parler à l'IA générative, de formuler sa demande de façon à ce que le produit qu'elle crée corresponde à ce qu'on recherche. Autrement dit, la créativité de l'IA risque de dépendre de la créativité des requêtes qu'on lui soumet. Agentivité et intention. Les chercheurs ont comparé des versions pour la plupart déjà obsolètes des IA génératives les plus connues. Du lot, ChatGPT-4 est le seul grand modèle de langage qui a dépassé la moyenne de créativité humaine. Gemini Pro, Google, suit tout près derrière, puis Claude 3. Le fait que ces IA s'approchent de la créativité humaine entraîne naturellement une autre question que pose Karim Djerbi. On voulait comparer les performances créatrices de l'IA générative, mais au final, on se demande qu'est-ce que ça nous dit sur la créativité? Est-ce que ça nécessite une forme de conscience, d'agentivité? L'équipe du professeur Djerbi prévoit d'ailleurs étudier dans un avenir rapproché les mécanismes cérébraux de la créativité afin de mieux comprendre les liens entre créativité, conscience et intelligence artificielle. Il recherche un appui philanthropique pour mener ce projet à terme. L'agentivité est la capacité de prendre des décisions et d'agir intentionnellement sur son environnement sans intervention tierce. C'est un pas de plus vers la pleine conscience, celle qui fait craindre à Joshua Bengio, notamment, qu'on risque de perdre le contrôle de l'IA le jour où elle prendra conscience de sa propre existence. L'agentivité est la prochaine grande frontière dans l'IA. Elle vient avec d'autres interrogations, notamment, qui contrôle l'IA? Des sociétés privées avides de profit plus que d'améliorer le sort de la collectivité? Ça, ça inquiète Karim Gerbi. Il rappelle qu'on a eu le même questionnement bien avant l'IA à propos de Facebook et d'autres technologies numériques. On n'a peut-être pas su répondre de la meilleure façon. Et il faudra y revenir avant qu'il soit trop tard avec l'IA, conclut l'universitaire montréalais. Le risque avec l'IA est qu'on est en train de remettre beaucoup de renseignements personnels dans les mains de sociétés privées. C'est très grave. L'outil n'est peut-être pas le problème, dit-il en somme, mais les personnes qui contrôlent cet outil, elles... C'était l'IA générative plus créative que nous, sauf que... Un texte d'Alain McKenna, paru le 21 janvier 2026 dans La Presse.
Ce n'est pas pour les faibles de cœur, un texte de Rose-Aimée Houghton T. Morin, paru le 14 décembre 2025 dans La Presse. Alice Tanguay est une traductrice de 48 ans. Depuis quelques jours, elle est aussi membre de la première équipe féminine ayant participé à la NHL Sled Classic. Elle portait le chandail du Canadien de Montréal à Long Island, New York. Un rêve si fou qu'elle ne se le croyait même pas permis. Alors, comment une mère de famille atteinte de la sclérose en plaques s'est-elle retrouvée à représenter les Glorieux dans un tournoi de para-hockey? Il y a un an, Alice Tanguay a emprunté une luge sur l'âme au Centre d'intégration à la vie active. Je me suis mise à faire des pirouettes, tourner, aller vite, freiner et déraper, se souvient-elle. J'avais le goût de retrouver le hockey, en plus d'avoir retrouvé le patin. Alice avait 3 ans quand elle a commencé à jouer au hockey. Chaque hiver, son père faisait une patinoire dans la cour pour ses frères et elle. Patin de fille et bâton de gardienne en main, la petite aimait défier les autres enfants. Sa joie s'est amoindrie lorsque les garçons de l'école ont pu avoir accès à des entraîneurs et devenir meilleurs qu'elle. Qu'importe, Alice s'est accomplie à travers la gymnastique et le karaté. Or, quand la maladie s'est invitée dans sa vie, elle tenait trop à ses dents pour continuer à pratiquer des sports risqués avec un équilibre précaire. Et elle l'avoue sans détour, elle n'a jamais su faire le deuil du hockey. Quand elle a compris qu'elle pouvait patiner à nouveau, Alice s'est donc aussitôt mise à la recherche d'une luge qui serait sienne. Elle a découvert l'existence de Para-Hockey Montréal et envoyé un courriel à l'organisation pour savoir quel type d'équipement était employé par ses joueurs. Le directeur général, Maxime Gagnon, lui a proposé de venir essayer la luge. J'ai eu tellement de plaisir que je me suis dit, ils ne m'enlèveront plus jamais ça. Alice retrouvait les sensations fortes et le sport qu'elle avait tant aimé. Et par sensations fortes, j'entends, quand les athlètes tombent, leurs chaises tombent avec eux. Les crosses utilisées pour se propulser sur la glace sont dotées de pointes de métal tout comme la mitaine des gardiens de but. Comme l'a souligné le fils d'Alice, un fin observateur, ce n'est pas pour les faibles de cœur. Il y a 6 mois, Alice Tanguay devenait officiellement une joueuse. Puis, il y a quelques semaines, l'ailière droite a reçu une invitation inespérée. Accepterait-elle de participer à un tournoi dans l'État de New York? Chaque année, des concessions de la Ligue nationale de hockey endossent des équipes de para-hockey à l'occasion de la NHL Sled Classic. Pour la première fois, il y avait assez de femmes dans le bassin montréalais pour créer une délégation entièrement féminine. Du jamais vu dans l'histoire de la compétition, qui présente des équipes masculines ou mixtes, ces dernières comprenant généralement 3 joueuses ou moins. C'est certain qu'on me l'offrait pour compléter l'équipe, et pas parce que je suis particulièrement bonne, admet Alice en riant. Soulignons que certaines de ses coéquipières sont membres d'Équipe Canada. Elle était tout de même honorée de pouvoir contribuer à mettre le pied dans la porte pour toutes les femmes qui auraient potentiellement envie, elles aussi, de jouer au hockey. Alice s'est donc jointe à la dizaine de joueuses d'ici, âgées de 18 à 48 ans, parties à Long Island du 4 au 6 décembre. Son rôle était d'embêter les défenseurs adverses. « Je leur criais en français dans les oreilles », dit-elle. Comme on dit dans le milieu, c'était full contact. Ça défoule. J'ai des bleus, comme je ne pensais jamais en avoir. L'adrénaline lui manquait, je vous le rappelle. Sur le bord de la patinoire, il y avait une rangée de prothèses de pieds, de jambes, de fauteuils et de cannes, poursuit Alice Tanguay. Je ne te rapporterai pas les propos salaces et orduriers qui se disaient sur la glace, mais ça aussi, c'est du défoulement garanti. L'équipe masculine du Canadien de Montréal s'est rendue en finale du tournoi. L'équipe féminine a, pour sa part, vaincu le Kraken de Seattle, mais s'est inclinée devant les Hurricanes de la Caroline, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas. Qu'importe pour Alice Tanguay, c'était comme réaliser un rêve qu'elle ne s'était jamais autorisée à avoir. Si bien des enfants s'imaginent se joindre à une équipe de sport professionnelle, ce n'était pas dans l'éventail des possibles de la petite Alice. Elle aurait toujours pu se tourner vers le patin artistique, mais porter le chandail du Canadien sur une patinoire à l'étranger, de la folie. Pour son anniversaire cette année, Alice a reçu un chandail de la victoire. Elle a dû retenir ses larmes en le déballant parce qu'elle a compris que désormais, tout était possible. Les choses ont changé. Pour le sport, pour les femmes, pour elle. C'était « Ce n'est pas pour les faibles de cœur », un texte de Rose-Aimée Auton T. Morin, paru le 14 décembre 2025 dans La Presse.
Chiffrer l'immigration ou écouter les personnes, le pouvoir des récits de vie. Un texte de Consuelo Vázquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation. Les débats sur l'immigration, qui défraient les manchettes québécoises et internationales, abordent fréquemment le sujet à travers les chiffres. Comme tout dossier politique, l'immigration soulève bien entendu des défis logistiques, mais aussi des réalités humaines. Considérant la prévalence d'une approche technique de la question migratoire, nous déplorons le peu de place accordée collectivement aux humains derrière les indices numériques, à leur parcours, à leurs histoires. Derrière ces chiffres se trouvent des trajectoires particulières, faites d'espoir, de rupture et d'ajustement. C'est ce que nous cherchons à mettre en lumière dans le projet de recherche « Entraide dans les marges » à l'Université du Québec à Montréal, qui documente les formes d'entraide émergentes dans des contextes de précarité comme celui associé à l'immigration. Pour réintroduire l'humain dans un débat largement dominé par des considérations quantitatives et objectives, nous nous appuyons notamment sur la notion d'escrevivencia, qui désigne un acte d'autonarration politique permettant aux personnes marginalisées de raconter elles-mêmes leur expérience depuis les marges et ainsi de se réinscrire dans l'histoire. L'escrevivencia se distingue à cet égard de l'autobiographie classique en ce qu'elle porte explicitement une visée politique et collective. Elle émane toujours de personnes subalternisées dont la prise de parole vise à transformer le regard social envers leur communauté et à revendiquer une place dans l'espace public. Escrevivencia, réhumanisée par l'autonarration. L'escrevivencia, concept forgé par la romancière brésilienne Conceição Evaristo en 1996, désigne l'acte d'écrire vivre, une écriture où la vie devient affirmation politique et production de savoir. Ancrée dans les traditions afro-diasporiques, elle souligne la mémoire collective, la réappropriation des racines et l'identité communautaire. Écrire, ici, c'est résister à la « desmémoire » que les récits de ceux en situation de pouvoir imposent lorsqu'ils parlent en notre nom, nous instrumentalisent ou tout simplement ne parlent jamais de nous. L'écriture vient dans ce contexte transformer la douleur en force créatrice, l'oubli en volonté de se faire entendre. Née dans les marges, l'escrevivencia permet aux sujets historiquement réduits au silence, notamment les femmes noires, de passer de l'objectivité à la subjectivité. Par l'autonarration, elle reconstitue le lien entre corps, mémoire et parole, redonnant humanité à celles et ceux que l'histoire a souvent effacés ou condamnés. L'écrivaine afro-brésilienne Conceição Evaristo est une figure importante de l'escrevivencia. Dans son conte « O Espelho Opaco de Ceni », écrit en portugais et publié en 2022, Evaristo relate l'histoire de Ceni, une femme noire incapable d'apercevoir son reflet dans le miroir. Au terme du récit, devant les miroirs dorés de sa petite fille, elle parvient enfin à se reconnaître avec une clarté ancestrale. En saisissant son propre reflet, celui d'une lignée de femmes noires longtemps déniées, elle transforme l'image en mémoire vivante. Ce geste d'auto-reconnaissance, partagé par sa petite fille et toutes leurs ascendantes, reconstitue le lien entre corps, temps et parole, un passage de l'objectivité imposée à la subjectivité réaffirmée. Dans le contexte migratoire, cette pratique acquiert une portée universelle. Raconter devient un acte de guérison et d'émancipation. Les autonarrations se présentent comme des discours minoritaires assumés, mais revendiquant la possibilité de pouvoir parler en retour afin de réinscrire tant l'histoire subjective que collective. L'escrevivencia devient ainsi un geste collectif de reconstruction, un espace pour recréer le monde depuis les marges. Je ne veux pas être traité comme un numéro. L'expérience de Cecilia. Parmi les récits oraux recueillis dans le cadre de notre projet « Entraide dans les marges », celui de Cecilia, un pseudonyme, arrivé du Mexique il y a 2 ans, illustre la portée de l'escrevivencia dans le contexte migratoire. Enseignante de mathématiques dans son pays, mère d'un jeune enfant, elle amorce au Québec une recherche d'emploi qui la confronte à de multiples obstacles linguistiques et administratifs. Elle raconte qu'un premier organisme d'aide lui aurait conseillé, allant à l'encontre des principes interculturalistes québécois, d'oublier tout ce qu'elle savait, comme si son expérience, sa formation et son identité professionnelle n'avaient plus aucune valeur ici. « Une claque dans la figure », dira-t-elle plus tard. Heureusement, son parcours ne s'arrête pas à cette blessure. Une intervenante, elle-même migrante, puis un enseignant de français dans un centre communautaire, devenu depuis un ami proche, l'ont accueilli et soutenu. Lors de ces rencontres, dit-elle, j'ai été traitée comme une personne, pas comme un numéro. Peu à peu, elle reconstruit sa confiance et redéfinit sa trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'un organisme communautaire où elle accompagne des travailleurs internationaux temporaires en les informant de leurs droits et des ressources disponibles. Pour Cécilia, raconter son histoire l'a amenée à réaliser que le problème n'était pas en moi, mais, en fait, dans le regard des autres. À son tour, elle souhaite soutenir d'autres femmes migrantes pour leur éviter, si possible, de traverser seules les mêmes épreuves. Des initiatives inspirantes. D'autres initiatives s'inscrivent dans cette volonté de donner place aux autonarrations des personnes migrantes et réfugiées. C'est le cas de Jade Bédard et de Christina Bastien, fondatrices de l'OBNL Histoire d'espoir, avec lesquelles nous collaborons dans le cadre du projet Entraide dans les marges. Par la diffusion de récits de personnes ayant immigré au Québec, elles offrent un espace d'expression où se croisent résilience, courage et espoir. Ces témoignages visent à rejoindre d'autres personnes ayant un vécu semblable, tout en sensibilisant la société d'accueil à la pluralité des trajectoires. De la même manière, Paul Thom, réalisateur du documentaire « Bagages », avec qui nous collaborons aussi, explore le pouvoir de la narration collective à travers le récit de jeunes nouvellement arrivés au Québec. Provenant de pays aussi divers que le Brésil, la Chine, l'Ukraine, la Colombie, ces jeunes racontent leur parcours migratoire et leur intégration via des ateliers d'art dramatique. Ces deux initiatives, parmi tant d'autres, nous rappellent qu'au-delà des chiffres et des slogans, les histoires vécues, fragiles, puissantes et multiples, comptent également, et qu'elles ont le pouvoir de tisser des liens et de transformer les imaginaires. C'était « Chiffrer l'immigration » ou « Écouter les personnes », le pouvoir des récits de vie. Un texte de Consuelo Vasquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation.
Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois. Un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Août 2024, c'est la consternation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Otis est bel et bien envahi par le myriophylle à épi. Cette plante envahissante menace la santé et l'équilibre du milieu aquatique. Qui contacter? Phyto, F-Y-T-O, la seule entreprise de la province qui se consacre totalement à cette lutte et qui allie stratégie et travail terrain. Le problème a été connu en 2024, mais c'est seulement en 2025 que nous avons pu mettre en place une stratégie de contrôle. C'est la première fois que cette plante est détectée dans cette région, mais c'est un problème qui se répand, affirme Vincent Gagné, président et directeur général de Phyto. À l'heure actuelle, près de 200 plans d'eau dans la province seraient touchés, un chiffre qui serait peut-être sous-estimé, selon le spécialiste. C'est une plante qui vient à la base de l'Eurasie. Elle a été importée et mise dans des aquariums comme décor, mais elle a été rejetée dans les lacs. L'enjeu est que la contamination est très facile. Elle se produit quand les plaisanciers se promènent d'un lac à l'autre sans laver à l'eau chaude leur embarcation, indique Vincent Gagné. Un projet de mémoire devenu entreprise. Phyto est venu au monde en 2021. C'est dans la foulée de sa maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval que Vincent Gagné a décidé de se concentrer sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Le myriophylle à épi envahit tout l'écosystème et entre en compétition avec les plantes indigènes. Je me suis vite rendu compte qu'on devait faire un plan de lutte, mais qu'il fallait ensuite entrer dans l'eau pour faire le travail. Le jeune entrepreneur a donc suivi son cours de plongée et s'est adjoint une équipe de plongeurs pour contrôler l'envahisseur. De trois, l'équipe s'agrandit à 24 personnes en saison. Elle compte dans ses rangs des plongeurs professionnels, mais également des spécialistes en environnement et des biologistes. Nous avons de plus en plus de mandats grâce aux bouche-à-oreille, nous dit Vincent Gagné. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 4 ans. Notre croissance moyenne annuelle est de 60 %. En 2026, on prévoit encore une hausse. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais cela prouve que la problématique est réelle et qu'on doit agir. Un long processus. Éliminer à 100 % le myriophylle à épi est impossible, mais les stratégies de contrôle sont efficaces, comme l'installation d'une toile, l'arrachage et l'aspiration sous-marine. Cependant, ces travaux exigent des autorisations et doivent être réalisés selon des normes précises. C'est la raison pour laquelle les demandes que reçoit Phyto cette année ne pourront déboucher sur des travaux qu'en 2027. On doit faire un inventaire, bâtir une stratégie avec la description du milieu. Ensuite, acheminer le tout au ministère avant que nous ayons les autorisations. En moyenne, le processus dure 1 an. Des riverains s'unissent. Pour plusieurs, l'attente en vaut la peine, car cette plante envahissante cause de nombreux soucis aux riverains qui se retrouvent face à un lac aux allures de marécage. D'ailleurs, ce sont eux qui s'unissent pour payer la facture. Certains mandats peuvent coûter jusqu'à 200 000 $ par an, mais le ministère de l'Environnement n'a pas les ressources pour payer ça. L'enjeu, c'est que plus le problème est présent depuis longtemps, plus il est onéreux à traiter. Ce sont donc des associations de riverains, des citoyens et des municipalités qui s'unissent pour payer les coûts, souligne le spécialiste. C'était « Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois », un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.